Voir un voilier fendre les flots, juste propulsé par le vent, c'est une image qui dégage une puissance, une élégance. C'est assez fascinant, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait.
On a cette simple toile, la voile, qui capte quelque chose d'invisible, d'impalpable, le vent, et qui le transforme en mouvement pur, en vitesse sur l'eau. Ça pourrait sembler presque magique, on dirait. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, eh bien, il y a une mécanique de précision, ce sont les lois de la physique.
Absolument. Ce n'est pas de la magie, non. C'est une magnifique application de l'aérodynamique. En fait, ce sont les mêmes principes fondamentaux qui permettent à un avion, un gros avion de plusieurs tonnes, de décoller.
Ah oui.
La voile, c'est une sorte d'aile, une aile verticale.
Exactement, une aile verticale mais adaptée au milieu marin. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une exploration assez poussée du fonctionnement de cette aile si particulière. Comment est-ce que cette surface, qui n'est jamais plate, hein, elle a une forme courbe en 3D, comment elle parvient à générer la force qui fait avancer le bateau, parfois même contre le vent?
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Pour cette analyse, on s'est basé sur des extraits d'une documentation technique très détaillée qui dissèque justement ces mécanismes aérodynamiques. Notre mission, si on peut dire, décortiquer ce processus complexe, comprendre comment l'air s'écoule autour de la voile, comment naissent ces différences de pression qui sont cruciales et comment tout ça se combine pour créer une force propulsive efficace. Bon alors, prêt à décortiquer ça?
Allons-y. Le point de départ, incontournable, je dirais, c'est l'interaction entre l'air en mouvement, donc le vent, et la surface de la voile elle-même. La façon dont l'air, en quelque sorte, voit la voile, c'est primordial.
Oui, cette notion clé, c'est l'écoulement de l'air. C'est ça. Il faut imaginer le vent, pas comme un bloc uniforme, hein, mais comme une multitude de filets d'air invisibles qui rencontrent cet obstacle, la voile. Pour que la voile travaille efficacement, il faut que cet écoulement soit le plus ordonné possible, le plus propre. C'est ce qu'on appelle un écoulement laminaire.
Laminaire, oui.
On peut visualiser ces filets d'air qui glissent sur la toile, bien parallèles les uns aux autres, qui épousent parfaitement la courbure, sans se perturber.
10. Il minimise la résistance parasite, la traînée. Et à l'opposé, on trouve l'écoulement turbulent.
Turbulent, hein, oui, le chaos.
Exactement. Là, les filets d'air deviennent chaotiques, ils se désorganisent, ils forment des remous, des vortex, un peu comme l'eau derrière un rocher dans une rivière, si vous voulez.
D'accord.
Et cet écoulement désordonné, bah, il dissipe beaucoup d'énergie. Et surtout, il génère de la traînée, une force de résistance, plutôt qu'une force propulsive utile.
Et d'après notre source, cet écoulement idéal, le laminaire, on peut le maintenir sur une large plage d'utilisation. Tant que l'angle entre la direction du vent et la corde de la voile, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence, tant que cet angle ne dépasse pas environ 40 degrés,
Oui, c'est une bonne marge.
l'écoulement reste majoritairement attaché, efficace. Ça correspond à des allures où le vent vient plutôt de travers ou de l'arrière, le large, le grand large. Des allures souvent rapides d'ailleurs.
Oui, agréable.
Mais même quand il est laminaire, cet écoulement, il a des conséquences directes, fondamentales, sur la pression de l'air autour de la voile. Alors, comment ça marche ça?
Bon, pour comprendre cela, il faut introduire un concept fondamental de la physique des fluides, la pression totale d'un fluide en mouvement, comme l'air. Cette pression totale, en fait, c'est la somme de deux composantes bien distinctes.
D'accord.
D'une part, il y a la pression statique. Ça, pour simplifier, c'est la pression atmosphérique ambiante, celle qu'on mesure avec un baromètre. Elle est liée à l'agitation des molécules d'air.
Ok, la pression météo en gros.
Voilà, c'est ça. Et d'autre part, il y a la pression dynamique. Celle-ci, elle est directement liée à la vitesse de l'écoulement de l'air. Plus l'air va vite, plus sa pression dynamique est élevée. C'est l'énergie cinétique du fluide, en quelque sorte.
D'accord, je vois. Pression totale égale pression statique plus pression dynamique. Et comment ce découpage nous aide pour la voile?
C'est là qu'intervient un des piliers de la dynamique des fluides, le fameux théorème de Bernoulli. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce principe, formulé au XVIIIe siècle, il régit aussi bien le vol des oiseaux que l'apportance d'une aile d'avion ou la courbe d'un ballon de foot.
Incroyable.
Bernoulli nous dit que le long d'une ligne de courant, c'est le chemin suivi par une particule de fluide et en l'absence de frottement important, pour un fluide comme l'air à ces vitesses, la pression totale reste constante.
Constante. Donc, si l'une des composantes change, l'autre doit forcément changer en sens inverse pour que la somme reste la même.
Précisément, c'est exactement ça. Si pour une raison X ou Y, la vitesse de l'air augmente, donc sa pression dynamique augmente, alors sa pression statique doit nécessairement diminuer pour maintenir la pression totale constante.
Ah.
Et inversement, si l'air ralentit, la pression dynamique diminue, alors sa pression statique augmente. C'est cette relation inverse entre vitesse et pression statique qui est vraiment au cœur du fonctionnement de la voile.
D'accord, ok. C'est comme si l'énergie totale du fluide était une quantité fixe qui se manifeste soit comme vitesse, soit comme pression.
C'est une bonne image, oui.
Et c'est maintenant que la forme spécifique de la voile entre en jeu. C'est elle qui va orchestrer ces changements de vitesse, j'imagine. Une voile efficace, ce n'est jamais une simple planche plate. Elle est courbée, elle a un creux, un profil bombé.
Exactement. Quand le vent arrive sur le bord d'attaque de cette voile courbe, il est obligé de se diviser. Une partie de l'air passe d'un côté, l'autre partie passe de l'autre côté.
Tout à fait.
Et l'air qui contourne la voile par l'extérieur, le côté sous le vent, qu'on appelle l'extrados,
extrados, ok,
doit parcourir un chemin physiquement plus long que l'air qui passe par l'intérieur, le côté au vent, l'intrados.
Intrados.
Pour se rejoindre au niveau du bord de fuite de la voile, à l'arrière.
Et voilà où ça devient vraiment intéressant, et un peu contre-intuitif, je trouve. Pour que ces deux flux d'air, celui de l'extrado et celui de l'intrado, arrivent plus ou moins en même temps au bout de la voile.
Mmh.
Celui qui prend le chemin de plus long, sur l'extrados donc, il doit nécessairement accélérer. Il doit aller plus vite.
Logique.
Et à l'inverse, l'air sur l'intrado, avec son chemin plus court, il peut se permettre de ralentir un peu par rapport à la vitesse du vent initiale. C'est l'effet Venturi en action, ça.
C'est exactement ça, l'effet Venturi. Du nom du physicien italien, la géométrie courbe de la voile impose une différence de vitesse de l'air entre ces deux faces. C'est la clé.
Ok. Et maintenant, on reconnecte ça à Bernoulli.
Et maintenant, il suffit de reconnecter cela au principe de Bernoulli. Oui, sur l'extrados, l'air accélère. Sa pression dynamique augmente donc. Pour que la pression totale reste constante, qu'est-ce qui arrive à sa pression statique?
Elle doit diminuer.
Exactement. Elle doit diminuer. On crée ainsi une zone de basse pression statique sur toute la surface de l'extrados.
Une zone de dépression relative par rapport à l'air ambiant. C'est une sorte d'aspiration.
C'est exactement le terme. On parle de suction. L'extérieur de la voile est comme aspiré vers l'avant et sur le côté par cette zone de basse pression.
D'accord. Et de l'autre côté, l'intrados?
Regardons maintenant l'intrados. L'air est ralenti. Sa pression dynamique diminue. Par conséquent, sa pression statique doit augmenter, pour compenser, pour maintenir la pression totale constante.
Ah, une surpression. Là, on peut parler de poussée au sens plus classique du terme.
Tout à fait. On peut parler de poussée, et c'est la différence fondamentale entre ces deux régimes de pression, la basse pression, la suction sur l'extrado, et la haute pression, la poussée sur l'intrado. C'est cette différence qui génère la force aérodynamique nette sur la voile.
La force totale.
Oui, la force totale. Et elle est globalement orientée de la zone de haute pression vers la zone de basse pression.
Attendez, là il y a un point qui est souvent mal compris, je crois. On a tendance à imaginer le vent qui gonfle la voile par derrière, qui la pousse. Mais si je comprends bien, la dépression sur l'extrado, elle joue un rôle majeur.
Un rôle prépondérant même. C'est un des points essentiels que souligne notre documentation source et qui surprend souvent. L'effet de suction sur l'extrado.
La face sous le vent.
Oui, la face sous le vent contribue beaucoup plus à la force aérodynamique totale que l'effet de poussée sur l'intrados, la face au vent.
Ah bon ? À ce point ?
Oui. Les mesures, les calculs montrent que la dépression sur l'extrados peut représenter jusqu'à 2/3, voire 3/4 de la force totale.
2/3, 3/4 ?
Oui. La voile est donc davantage tirée vers l'avant et sur le côté par la basse pression sur sa face extérieure qu'elle n'est poussée par la surpression sur sa face intérieure.
Ça change pas mal la perspective, vraiment. L'image classique du vent qui s'engouffre et qui pousse la toile, ce n'est donc qu'une partie minoritaire de l'explication.
C'est ça.
Le vrai moteur, c'est cette traction invisible créée par l'accélération de l'air sur l'extérieur. C'est fascinant. Mais ce mécanisme subtil, il a ses limites, j'imagine. On a parlé de l'angle d'incidence tout à l'heure.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si on oriente la voile trop directement face au vent, si cet angle devient trop grand?
C'est là qu'on rencontre un phénomène critique en aérodynamique, le décrochage. Comme pour une aile d'avion qui cabre trop.
D'accord.
Si l'angle d'incidence de la voile dépasse une certaine valeur limite, eh bien l'écoulement de l'air sur l'extrados n'arrive plus à suivre la courbure. La courbure devient trop prononcée, l'air n'a plus assez d'énergie pour lutter contre le gradient de pression adverse qui essaie de le ralentir.
La source technique mentionne un angle critique qui se situe généralement autour de 15 à 20 degrés pour la plupart des voiles. C'est un angle relativement faible en fait.
Oui, c'est assez peu.
Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là? L'écoulement laminaire se brise? Il se casse?
Exactement. L'écoulement sur l'extrados se décolle brutalement de la surface de la voile, souvent ça part du bord d'attaque ou un peu en arrière. Au lieu de suivre le profil courbe, les filets d'air partent et forment une large zone de turbulence, très désordonnée, pleine de tourbillons, qui recouvre une grande partie de l'extrados. Pensez à une voiture de course avec un aileron arrière trop incliné. L'air ne s'écoule plus proprement dessus. C'est pareil.
Et la conséquence sur la force générée ? J'imagine qu'elle s'effondre.
Elle s'effondre de manière spectaculaire, carrément, puisque la dépression sur l'extrados était la composante majeure de la force.
Oui, les deux tiers.
La disparition de cet écoulement laminaire, son remplacement par une zone turbulente où la pression est quasi ambiante, ça entraîne une chute drastique de la portance. La voile décroche.
Elle décroche.
Elle ne génère quasiment plus de force utile vers l'avant. Elle produit surtout de la traînée, beaucoup de traînée.
C'est le moment où en navigation, on dit que la voile phaseille. Elle se met à battre, à claquer.
Oui, c'est ça.
C'est elle perd toute sa puissance et le bateau ralentit brutalement, où il devient instable. On sent la différence immédiatement dans la barre, dans le comportement du bateau.
Tout à fait. Ce phénomène de décrochage, c'est l'ennemi numéro un du bon réglage. Et cela soulève une question importante sur l'art subtil du pilotage et du réglage des voiles. Maintenir en permanence le bon angle d'incidence est absolument crucial pour l'efficacité et la performance.
Il faut toujours ajuster.
Il faut constamment ajuster l'orientation de la voile par rapport à la direction du vent apparent. Le vent apparent, c'est la combinaison du vent réel et du vent créé par la vitesse du bateau.
Oui.
Il faut ajuster pour rester juste en dessous de cet angle de décrochage critique. C'est là que la portance est maximale. C'est un jeu constant d'ajustement des écoutes, parfois de la trajectoire du bateau, surtout si le vent change, ou en régate bien sûr. C'est tout le savoir-faire du régleur.
D'accord. Donc on a cette force aérodynamique, créée par la différence de pression, dominée par la succion sur l'extrados, très sensible à l'angle d'incidence. Mais où est-ce qu'elle s'applique précisément sur la surface de la voile ? Et dans quelle direction elle pointe ? La source précise que cette force globale, en réalité, c'est la résultante, la somme vectorielle d'une infinité de petites forces de pression élémentaires.
Oui.
Qui agissent perpendiculairement à chaque petit morceau de la surface de la voile.
C'est exact. Il faut imaginer la voile comme une mosaïque de petits éléments de surface. Chacun subit une force locale due à la différence de pression entre ces deux faces. La force aérodynamique totale, c'est la somme de toutes ces petites forces. Et le point d'application de cette force résultante, il n'est pas fixe, mais il se situe généralement quelque part dans la zone de creux maximum de la voile.
Ah oui, logique.
Souvent autour du premier tiers ou de la moitié de la corde, en partant du mât.
Logique, car c'est là que la courbure est la plus forte, donc l'effet Venturi est le plus prononcé, et ça génère la plus grande différence de pression.
Voilà.
Et concernant sa direction, est-ce qu'elle pousse le bateau droit devant ?
Pas directement, non. La documentation indique que la direction de cette force aérodynamique résultante est, pour une voile bien réglée, non décrochée, elle est quasiment perpendiculaire à la corde de la voile.
Perpendiculaire à la corde ?
Oui. Rappelons que la corde, c'est la ligne droite imaginaire qui relie le bord d'attaque, là où le vent rencontre la voile, au bord de fuite, là où l'air quitte la voile.
Quasiment perpendiculaire. Sauf, est-il précisé, pour des angles d'incidence très faibles, disons inférieurs à 25 degrés. Là, elle s'incline un peu plus vers l'arrière. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la propulsion du bateau ? Si la force principale est presque perpendiculaire à la voile, elle ne semble pas orientée pile dans le sens de la marche.
C'est une observation très pertinente, ça. Cette force aérodynamique totale, qu'on peut appeler la portance vélique, par analogie avec l'avion,
oui.
Elle se décompose en fait en deux composantes vectorielles par rapport à l'axe du bateau. Une composante est dirigée vers l'avant, dans le sens de la marche. Ça, c'est la force propulsive, celle qui fait avancer le bateau.
D'accord, la force utile.
La force utile, voilà. L'autre composante est dirigée latéralement, perpendiculairement à l'axe du bateau. C'est la force de dérive. C'est elle qui tend à faire glisser le bateau sur le côté, la dérive, et à le faire pencher, la gîte.
Oh.
Et le rôle de la quille ou de la dérive sous la coque, c'est justement de contrecarrer cette force latérale pour que le bateau avance principalement vers l'avant.
Ah, d'accord. Donc tout l'enjeu, c'est de maximiser cette composante propulsive tout en minimisant les forces indésirables, la composante latérale, mais aussi la traînée aérodynamique de la voile elle-même, liée au frottement de l'air, au tourbillon.
Oui.
Et bien sûr, la résistance hydrodynamique de la coque dans l'eau.
Vous mettez le doigt sur le concept clé de rendement ou de finesse, qui est aussi abordé dans nos sources. La finesse d'une voile, comme celle d'une aile d'avion, d'un planeur même, ça mesure son efficacité aérodynamique. C'est sa capacité à générer un maximum de portance, la force utile, perpendiculaire au vent apparent, notée CZ dans les coefficients.
CZ, ok.
Pour un minimum de traînée, la force de résistance, parallèle au vent apparent, notée CX.
CX.
On cherche donc à obtenir le rapport portance sur traînée, CZ sur CX, le plus élevé possible. Une voile avec une grande finesse, c'est une voile qui tire beaucoup vers l'avant pour très peu de résistance.
Et comment on obtient cette finesse maximale ? J'imagine que ça dépend encore de cet angle d'incidence.
Tout à fait. Il existe une plage d'angle d'incidence optimale pour chaque voile, où ce rapport CZ-CX est maximal. La documentation nous donne une fourchette indicative pour la plupart des voiles de prédate. Cette plage se situe approximativement entre 20 degrés et 45 degrés d'angle d'incidence, par rapport au vent apparent toujours.
D'accord. Donc, en dessous de 20 degrés, on est trop proche du décrochage. La portance CZ chute brutalement, donc la finesse s'effondre.
C'est ça.
Et au-dessus de 45 degrés, qu'est-ce qui se passe ?
Au-delà de 45 degrés environ, l'angle devient trop important pour maintenir un écoulement bien attaché sur une grande partie de la voile. L'écoulement devient de plus en plus tourbillonnaire, surtout près du bord de fuite. Et ça augmente considérablement la traînée, le CX.
Ah oui.
Sans augmenter proportionnellement la portance. Le CZ, du coup, le rapport CZ-CX diminue aussi. La voile devient moins efficace, elle freine plus qu'elle ne tire proportionnellement.
La zone de sweet spot, comme on dit, la plage de réglage idéale pour maximiser l'efficacité, elle se situe donc quelque part entre cet angle de décrochage, proche de 20 degrés, et cet angle où la traînée devient trop forte, vers 45 degrés.
C'est exactement ça. C'est dans cette fenêtre que la voile offre le meilleur compromis, générant une force propulsive maximale et minimiser les résistances. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, comprendre cette plage optimale et les phénomènes physiques qui la délimitent, le décrochage d'un côté, l'augmentation de la traînée turbulente de l'autre, c'est absolument fondamental pour quiconque veut régler finement ses voiles. Optimiser constamment cet angle d'incidence en fonction des variations du vent, de la vitesse du bateau, c'est la clé pour extraire le maximum de performance d'un voilier. Que l'objectif soit de gagner une régate ou simplement de faire une traversée plus rapide, plus confortable.
C'est vraiment passionnant de voir comment ces principes physiques, assez abstraits parfois, se traduisent en sensations et en actions très concrètes à bord. Si on essaye de synthétiser les points clés de notre exploration, tout commence avec la forme courbe de la voile, cette courbure, ce profil asymétrique.
Essentiel. Ça force l'air à suivre des chemins de longueur différentes.
Ce qui, via l'effet Venturi, entraîne une accélération de l'air sur la face extérieure, l'extrados.
Oui.
Et un ralentissement sur la face intérieure, l'intrados.
Voilà.
Ensuite, le principe de Bernoulli nous dit que ces variations de vitesse induisent des variations inverses de pression statique. Une dépression, une basse pression, se crée sur l'extrados. Et une surpression, haute pression, sur l'intrados.
Et le point crucial, souvent contre-intuitif, c'est la suction exercée par la dépression sur l'extrados qui constitue la part la plus importante de la force aérodynamique totale.
Bien plus importante.
Oui.
La voile est bien plus tirée qu'elle n'est poussée.
Et tout ce mécanisme fonctionne de manière optimale dans une plage d'angle d'incidence bien définie, typiquement entre 20 et 45 degrés. Ça permet de maintenir un écoulement d'air laminaire, attaché, et d'éviter le phénomène de décrochage qui, lui, anéantit la force propulsive. C'est une mécanique fluide assez élégante, finalement, basée sur des lois physiques universelles, mais dont l'application demande un réglage fin et une bonne compréhension des phénomènes en jeu.
Absolument. Une très belle illustration de la science au service de l'art de naviguer.
Et pour prolonger la réflexion, peut-être, au-delà de notre discussion, on pourrait se laisser avec une question. Maintenant qu'on a bien intégré que la voile est principalement tirée par la dépression sur l'extrados, comment est-ce que ça modifie notre perception plus générale de l'action du vent ? On a souvent une vision très poussante du vent, non ?
Oui, c'est vrai.
Or, la routine montre ici la puissance de la traction générée par la vitesse et la forme. Et peut-être une autre piste d'exploration. Comment ces mêmes principes fondamentaux, Bernoulli, Venturi, la gestion des écoulements, l'importance des angles d'attaque, le décrochage, comment ils se manifestent et sont exploités dans d'autres domaines, technologiques ou naturels?
Ah oui?
On pense immédiatement aux ailes d'avion, bien sûr, mais aussi aux pales d'éoliennes, aux hélices de bateaux ou d'avions, à l'hydrodynamique des quilles, des safrans sous l'eau, voire même au design de certains bâtiments pour minimiser la prise au vent, ou à la forme des nageoires des poissons.
Partout, en fait.
Un peu partout, oui.
C'est une invitation à observer le monde qui nous entoure avec un œil neuf sur cette danse invisible des fluides.